18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonsoir, chers amis auditeurs. Merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous le savez. Et ça, ça nous réjouit. Et ça ne peut ne faire que, évidemment, augmenter notre enthousiasme pour vous informer, analyser, commenter, décrypter l'actualité, chers amis auditeurs. Au sommaire, beaucoup de choses. Oui, parce que la grève s'annonce rude, laborieuse demain. Y compris, vous le savez, qui certains veulent en découdre avec, évidemment, ce moment qui veut, certains veulent l'inscrire, évidemment, dans le marbre, parce que, eh bien, on va avoir dans une poignée de minutes un syndicat qui lui est révolté. Vous le connaissez, il s'appelle Jimmy Dalidou. Et il veut marquer, évidemment, un tournant, un virage durant cette réforme, cette retraite. Alors, justement, chers amis auditeurs, vous le savez, après ensuite, je vous proposerai comme chaque soir, vous-même, au 01 53 48 3000, eh bien, tout simplement, figurez-vous, de venir nous livrer votre pensée, votre opinion, vos commentaires concernant ce qui nous attend demain. Comment voyez-vous la grève demain? Est-ce que ça risque de déraper? Paraît-il que j'entends de plus en plus que ça peut déraper et partir notamment au clash. Au clash avec les CRS, au clash avec la police, au clash avec le capitalisme, au clash avec la rue, et puis cette violence qui peut s'installer. Peut-on le craindre? C'est la question que je pose aussi notamment. Mais surtout, est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui pour que le gouvernement entendent le message? C'est la question aussi. Beaucoup se la posent. Et bien au 01 53 48 3000, je vous la poserai. Je voudrais qu'on l'échange ensemble, chers amis auditeurs. Oui, c'est ici que ça se passe, n'oubliez jamais. Hein. Les Informés, 18h, 19h30. Autre chose aussi. On aura des débatteurs. Ils sont nombreux ce soir. Attention, chers amis. Des élus, des leaders d'opinion. Bref, tous autour de ce plateau viendront apporter leur regard, leur point de vue pour échanger sur la grève, pour échanger sur évidemment les jeunes, et on parlera aussi de demande d'asile. Voilà, chers amis auditeurs, c'est beau, hein? Le sommaire qui vous attend, c'est comme chaque soir, chers amis auditeurs. Anthony qui secoue la tête. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Adil, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Tu secoues la tête à tout ce que je dis?
Ah bah parce que c'est la vérité, je constate qu'on a un sommaire riche et varié comme le second de Vanessa.
Et toujours.
Et ça plaît à Vanessa, ça plaît aux auditeurs.
Ça plaît à Vanessa, bah tant mieux si ça plaît à Vanessa.
Allez, je me mets une clochette.
Elle est bonne celle-là, le mec, il est complètement dérapé dans sa tête. Et toujours autant d'appels. Voilà, c'est surtout ça.
Exactement.
Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et en toute liberté d'expression. On va t'offrir un thé.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Tu mérites un thé, hein, comme Henri Pémo qui est venu un peu à l'avance, et une galette, hein, la galette des rois, offert gracieusement par une boulangerie. Merci beaucoup. Quel délice pour l'équipe du Morning, hein. Kim et Mona ce matin. Quel régal. Vous confirmez Henri Pémo, bonsoir.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour la galette et merci.
Ouais, c'est bon.
Merci galette de m'accueillir avec cette galette et ce thé.
On vous retrouve tout à l'heure.
Exactement, avec plaisir.
Henri Pémo, vous savez, il est jeune élu l'opposition. Oui, jeune élu de l'opposition de l'île Saint-Denis. Allez, tout de suite l'interview du jour.
Les Informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Jimmy Dalidou. Vous le savez, eh bien, tout simplement, il est d'abord le représentant CGT, mais également auteur. Jimmy Dalidou, vous le connaissez, puisqu'il vient débattre régulièrement ici sur notre antenne. Bonjour Jimmy Dalidou.
Bonjour Abil, bonsoir à tous. Bonsoir plutôt.
Bonsoir, comment allez-vous?
Bah écoutez, ça va. Hein.
Bon, dites-moi Jimmy Dalidou, comment s'annonce la grève de demain? Paraît-il, évidemment, je sais pas, depuis ce matin, j'arrête pas de recevoir des messages que il risque d'y avoir dans les à-côtés quelques violences qu'on attend.
Alors, demain, c'est une journée, je pense que les auditeurs ont compris que demain s'annonce comme une journée noire. Alors, ce n'est pas une journée rouge, hein, c'est une journée noire. Il n'y aura quasiment aucun transport. Les chiffres sont tombés, sont tombés au compte-goutte depuis hier soir. Après, chez nous, on a des systèmes de devis, etc. C'est-à-dire les déclarations d'intention de grève pour certains métiers, etc. Donc, on sait qu'il y a... Pour beaucoup de lignes SNCF, la plupart des lignes vont fermer. Où il y aura très peu de trains. On voit à peu près un train sur 10, pas plus, sur la majorité des lignes. Certaines lignes et gares vont fermer. À la RATP, ce sera pas mieux. Et ce sera, ça va toucher un petit peu tous les secteurs de production. Alors, tout le cadre public, dans tout le public, sera, ça sera touché. Et j'ai envie de vous dire que bon, le secteur public sera touché en général, mais malheureusement, comme vous le savez, dans le secteur privé, c'est peu plus compliqué parce que on n'a pas forcément des, on est les organisations syndicales, pas seulement la CGT, mais toutes les ES, enfin, organisations syndicales donc, ne sont pas forcément organisées dans les entreprises privées. Je pense notamment aux PME, etc., TPE, PME, où c'est plus compliqué, on n'a pas forcément de syndiqués là-bas. Ou alors quand ils sont syndiqués, ils ne sont pas forcément organisés parce que soumis à une répression féroce. Donc on sait que dans le privé, ils sont tous, on va dire qu'ils seront sur une position de neutralité bienveillante, soutien au mouvement et dans le cadre public, tous dans l'action.
Dites-moi, demain justement, quelle est la tonalité de la grève qui s'annonce? Vous l'avez dit, ça y est, vous nous avez annoncé la couleur. Vous dites c'est pas rouge, c'est noir justement, un jeudi noir, qui risque de se reproduire d'ailleurs, qui risque d'être reconduit vendredi aussi également. Quel est le mot d'ordre? Quel est justement, quels sont les différents slogans auxquels on peut s'attendre demain, vous en tant que représentant CGT? Et qu'est-ce que vous voulez justement? Quel est l'enjeu de cette grève qui est très attendue demain? On parle par exemple de 800 000 personnes dans toute la France.
Oui, alors le mot d'ordre, il est clair, c'est que la retraite, la réforme des retraites, on ne veut pas. Je crois que entre les chiffres et ce qui se dit dans les entreprises, dans la rue, je pense que la majorité des Français ont compris que quand on dit que plus de 80% des Français sont contre cette réforme des retraites, je pense pas que ce soit un chiffre qui soit faux. La majorité, plus de la majorité des Français sont contre parce que c'est une réforme qui est injuste, qui est injustifiée, injustifiable, qui est désastreuse pour la majorité de la population française, qui vont se voir travailler plus longtemps alors qu'ils sont déjà en train de galérer tous les mois. Alors vous vous rendez compte, actuellement on a une inflation qui va, pour 2023, on annonce une inflation record. Alors on dit aux Français, à la majorité des Français, qu'ils vont subir une inflation record, qu'ils vont payer le double au niveau des prix, ils vont payer le double de ce qu'ils payent d'abord. D'habitude c'est pas évident, mais là ça va devenir encore plus difficile pour se nourrir. On leur dit que les factures augmentent, on leur dit qu'il y a un véritable risque de guerre, parce que certains font la guerre pour faire toujours plus de fric, hein. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein. On leur dit que on veut pas augmenter leur salaire, notamment pour les ceux qui sont au SMIC, etc. Et en plus on est en train de leur dire qu'ils vont travailler toute leur vie. Et dans le même temps, on a un gouvernement qui assis sur ses basses besognes, met en application ces directives tout seul, parce qu'ils font passer leur loi par 49.3, indépendamment des députés. On se demande à quoi ils servent d'abord, et d'ailleurs ces députés, puisqu'on leur demande même plus leur avis. Indépendamment des députés, des représentants syndicaux, je vous rappellerai que il n'y a pas que la CGT, hein, dans la vie, il y a plusieurs représentants syndicaux, plusieurs OS confondus. Alors ils font tout passer par 49.3 et en fait, pendant que les Français sont en train de souffrir et qu'on leur annonce qu'ils vont encore souffrir plus, on leur dit qu'ils doivent rester sages et qu'ils doivent accepter de travailler toute leur vie et payer plus cher. Donc il faut comprendre que la majorité des Français n'en peuvent plus et qu'ils n'en veulent pas. Alors est-ce que la grève sera reconduite? J'ai envie de vous dire que ça, encore une fois, ce n'est pas les organisations syndicales qui vont décider. Encore une fois, je reviendrai sur un élément important, parce que je sais, on entend ce que disent certains grands médias, mass médias, on va dire. Les syndicalistes ne sont pas là pour contrôler les travailleurs. C'est pas notre boulot. Le travail du syndicaliste n'est pas de contrôler la force de travail. On est là pour les accompagner dans leurs revendications qu'ils vont poser. Les travailleurs ont posé des revendications, après discussion, après débat entre eux. Certains sont syndiqués, d'autres ne sont pas forcément syndiqués, mais sont travailleurs sympathisants, etc., etc. Et le syndicaliste, son boulot, c'est d'accompagner le travailleur dans ses besoins. Dans ses besoins, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'on leur demande? Est-ce que vous voulez poser les sacs ou pas? On fait des sondages, on discute avec eux. Et si la majorité des travailleurs disent, bah, nous, on veut arrêter ce qui va se produire demain, eh bien, nous, on leur donne les possibilités financières, dans une certaine mesure, les possibilités matérielles, les possibilités au niveau des idées pour pouvoir, pour qu'ils puissent arrêter, s'exprimer et appuyer des revendications. Donc c'est les AG qui vont décider, il y aura des assemblées générales dans lesquelles il y aura des discussions, des débats entre les travailleurs, quels que soient les secteurs de production. Et tous ensemble, ils vont, après discussion et débat, ils vont voter la reconduite du mouvement ou pas. Encore une fois, ce n'est pas les syndicalistes, les représentants syndicaux qui vont décider de leur reconduite. Ce sont les salariés et les travailleurs qui le décideront. On mettra en application ce que la classe ouvrière et les couches populaires, donc la majorité des Français, décidera.
Dites-moi, Jimmy Dalidou, justement, vous dites, est-ce que vous avez le sentiment, je vous pose la question clairement et très simplement, est-ce que vous avez le sentiment, franchement, que la manifestation de demain, on parle de 800 000 personnes à peu près partout en France, est-ce que vous pensez réellement que ça peut faire bouger les lignes concernant le gouvernement? Est-ce que ça risque de faire plier le gouvernement? Certains et beaucoup pensent que non.
Alors, pour vous parler franchement, je pense pas que ça sera sur une manifestation, sauf si la manifestation, elle est vraiment gigantesque. Mais il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, même s'il y a 800, 1 million de personnes, ça fait beaucoup de personnes qui pourront pas se déplacer malheureusement en manifestation parce que soit elles sont prises à la gorge financièrement, parce que pour certaines personnes, pour d'autres travailleurs, c'est compliqué pour tout le monde de perdre une journée de travail. Mais pour certains travailleurs, effectivement, c'est doublement compliqué de perdre une journée de travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, et syndicalistes révolutionnaires comme moi, nous le savons, certains salariés ne peuvent pas se permettre de perdre ne serait-ce qu'une journée de travail. C'est trop dur pour eux. Parce que quand elles travaillent tout le temps, le mois entier, elles s'en sortent pas. Alors perdre une journée ou deux, c'est pas possible.
Oui.
Donc beaucoup de travailleurs ne pourront pas aller dans la rue. Mais ça ne veut pas dire qu'elles seront contre la manifestation. Encore une fois, il y a beaucoup de travailleurs qui mettront en exergue une neutralité bienveillante. C'est-à-dire que même.
Est-ce que c'est une raison, Jimmy Dalidou, comme certains de vos collègues, par exemple, de la CGT Énergie, qui disent, qui me laisse carrément de couper l'électricité à des élus. Ça, je trouve que c'est pas très loyal, de faire cela. C'est pas des attitudes. C'est pas un exemple à montrer. Manifester, c'est une chose, effectivement. Faire part de sa révolte, faire part de son mécontentement, oui. Mais de là à aller vouloir menacer de couper l'électricité à des élus, parce qu'ils soutiennent le gouvernement, est-ce que vous ne considérez pas justement que là, ça va trop loin?
Alors, écoutez, cette question, c'est une question importante, mais je pense que cette question-là, il faudrait la poser à la Fédération CGT.
Et surtout, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça?
Écoutez, encore une fois, il faut bien comprendre. Alors, peut-être que les auditeurs ne le savent pas forcément, parce que vous savez, la CGT, vous avez une confédération. Alors, comment ça se passe? Vous avez plusieurs CGT. Vous avez la CGT Cheminot, vous avez la CGT Énergie, vous avez la CGT Finance, etc., etc. C'est-à-dire que vous avez plusieurs fédérations. Et vous avez à peu près entre 26 et 27 fédérations, et le tout est chapeauté par une confédération. Et vous avez un secrétaire général par fédération, vous avez un secrétaire général pour la fédération CGT Énergie, un secrétaire général pour la fédération CGT Cheminots, etc. etc.
Oui, oui.
Et vous avez le secrétaire général de la CGT, M. Martinez actuellement, qui chapeaute le tout. Donc, oui, effectivement, peut-être que... Alors, je ne sais pas comment cette phrase est sortie dans les médias. Est-ce que ça a été... mais on exerce par un ou des syndiqués que ça a été extrapolé et reçu par les médias, ou est-ce que c'est une approche générale? Mais en tout cas, il faudrait permettre aux camarades de la CGT Énergie de s'exprimer. Vous voyez, il y a la CGT Cheminot et la CGT Énergie. Mais en tout cas, encore une fois, dans l'essence, alors dans la forme, peut-être qu'ils ont mis ça en exergue d'une manière un peu... ils sont pris un peu comme des pieds, mais dans le fond, est-ce qu'ils ont tort? Alors, ce qu'ils ont voulu faire comprendre, c'est qu'effectivement, quand vous avez un gouvernement et des élus qui sont en train de nous dire à la majorité des Français qu'ils vont travailler toute leur vie et pour gagner un SMIC à 1 350 € et qu'il suffit même pas à payer son loyer, est-ce que c'est normal que pendant ce temps-là, vous avez des élus qui dorment et qui touchent 20 000 balles par mois? Donc, à un moment, il faut arrêter de dire que... Alors, on en revient à cet élément qui est quand même assez énervant, qui consiste à dire qu'à partir du moment où les salariés commencent à se biffer parce qu'ils sont dans la misère, ce sont des méchants garçons. Mmh. Et lorsque le gouvernement impose cette directive destructrice, nauséabonde et totalement injustifiée, c'est forcément dans l'ordre des choses. Vous voyez ?
Donc, merci.
À un moment, il faut... Voilà.
Merci Jimmy Dalidou pour cette interview. On reviendra sur demain, la journée de demain. Merci infiniment, donc représentant CGT, mais également auteur. Merci Jimmy Dalidou. Et bonne grève pour demain.
Merci.
Merci à vous. Je vais ouvrir l'antenne, tiens, justement, 0153483000. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui se dit? Est-ce que vous êtes d'accord que pour que les syndicats aussi prennent en otage un certain nombre de choses, parce qu'ils considèrent qu'effectivement, il y a un vrai problème, notamment quand on parle de salaire, quand on parle de ceci, cela. Est-ce qu'il a le droit aussi, les syndicats, est-ce qu'ils ont le droit aussi de, franchement, hein, est-ce qu'ils ont le droit de couper l'électricité, comme ça, aux élus? Eh bien, on en parle. Je voudrais vous entendre. Je veux qu'on échange sur ce sujet. C'est très, très important. 0153483000.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Allez les informés, c'est aussi vous. Vous, au 0153483000. Jingle.
0153483000. Les informés vous donnent la parole.
Avant de retrouver Nasser, celui qui est débatteur, chroniqueur chez Bilal Nedman, il est en Arabie Saoudite. Et il viendra justement en direct et en duplex depuis Jeddah, qui viendra donc nous livrer son voyage du PSG. Mais surtout ce match attendu ce soir, le PSG en Arabie Saoudite contre Messi, contre Ronaldo. C'est ça.
Exactement, et c'est demain soir, pardon. C'est le 19...
Ah, c'est demain soir, pardon, demain soir. Anane de Créteil, bonsoir Anane de Créteil.
Oui, allô ?
Bonsoir ma chère Anane, comment ça va ?
Bonsoir, comment allez-vous ?
Mais très bien, très très bien, très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis gestionnaire paye. Gestionnaire facturation, pardon. Facturation.
Bah écoutez, bienvenue à vous.
Qui est vraiment,
alors on vous écoute vraiment... concernant évidemment toute cette révolte, et puis surtout, la question que j'ai soulevée à savoir, est-ce que franchement... La vérité, disons-le, est-ce que les syndicats peuvent s'autoriser à faire des choses, à s'octroyer des choses, notamment à couper l'électricité auprès des élus parce qu'ils soutiennent le gouvernement, et c'est leur problème, prendre en otage un certain nombre de choses.
Disons, il faut rappeler une chose, c'est que les élus travaillent pour le peuple et non le contraire.
Oui.
D'accord.
Oui. Donc ils sont élus.
Dessus, voilà, c'est des élus.
Et on a un élu sur le plateau. Vous confirmez ce que dit Anane ?
Exactement.
C'est nous, si je puis dire, qui avons voté pour qu'on soit représenté au sein du gouvernement de manière, en fait, à ce que tout se fasse correctement. Mais encore une fois, c'est nous qui avons élu des gens pour que ces gens puissent travailler pour nous. Il faut que l'argent qu'on dépense au niveau de nos impôts et qu'on dépense, en fait, pour l'État, soit utilisé à bon escient. Concernant en fait la personne en fait qui est passée tout à l'heure, Monsieur Jimmy
Dalidou, le représentant CGT.
Exactement. Il a entièrement raison. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui sur le fait que j'espère que demain ce sera un jeudi extra noir, mais au-delà du noir, puisque aujourd'hui, en toute sincérité, nous sommes en fait dans une fracture sociale, une fracture économique, une fracture dans tous les sens, et qu'à ce jour, franchement, on survit. Ça y est, on ne vit plus, on survit.
Ouais, c'est ce que vous dites. Vous êtes nombreux à penser ça justement, vouloir nous dire que c'est plus de la survie, c'est plus on vit, c'est de la survie.
C'est de la survie. Où est-ce qu'on va, en fait, où est-ce qu'on va arriver? Une fois, je voulais participer à votre émission en disant.
Et pourquoi vous l'avez pas fait?
Aujourd'hui, non, je l'ai pas fait parce qu'il y avait, c'était trop tard.
Ouais.
En fait, aujourd'hui, il faut pas oublier une chose, c'est que le plus grand électorat en France, c'est l'abstention.
Aujourd'hui, oui, c'est vrai, vous avez raison.
C'est l'abstention. Oui, et donc aujourd'hui, je pense qu'on est à l'image de cette abstention.
Oui. Vous voyez ? Oui, c'est vrai.
J'espère que demain, on va, je dis parce que je m'inclus dans l'eau, c'est que demain, les manifestations vont être énormes dans toute la France pour que le gouvernement puisse enfin ouvrir les yeux. Mais en toute sincérité, j'ai quand même un doute énorme. Pourquoi ?
Oui.
Parce que j'ai peur, malheureusement. Que ça passe, en fait, ça rentre d'une oreille et que ça sort d'une autre. Voilà. Et
ouais. Henri Pémaud, qui est un élu de la Seine. Écoutez, il y a Henri Pémaud qui est l'île de Saint-Denis. Qu'est-ce que vous répondez à Anane de Créteil?
Tout d'abord, sur la responsabilité des élus, je suis tout à fait d'accord avec vous. On est là en premier lieu pour représenter la population. Et donc, ça, c'est un exercice du pouvoir qui semble de plus en plus se déliter, encore plus quand on est tout en haut du gouvernement. Où on a de moins en moins de liens avec le terrain. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas perdre foi aussi en la démocratie. Et c'est pour ça que les urnes sont notre première arme.
Et vous avez raison, Anane, c'est vrai. C'est vrai, et on le dit, on le répète évidemment en permanence. L'arme ultime qui peut évidemment faire bouger et évoluer les choses, vous savez, c'est quoi? Vous l'avez dit, Anane.
C'est
d'aller voter. Les élections, là, c'est d'aller voter. C'est de s'inscrire sur les listes électorales et d'aller voter.
Moi, je vote. Je n'ai jamais en fait failli, depuis que j'ai 18 ans, je n'ai jamais failli en fait à ce droit et ce devoir d'aller voter. C'est, on, je veux dire, nos ancêtres, nos prédécesseurs se sont battus pour ce droit. Donc, on se doit d'aller voter. Mmh. Mais aujourd'hui, en toute sincérité, pourquoi les gens ne vont plus voter? Mais moi, je l'entends autour de moi. Que ce soit ma famille, mes amis, mes collègues, tout le monde dit, ça sert à quoi d'aller voter? Puisque de toute façon, pardonnez-moi encore une fois, je vais le dire une deuxième fois, on nous met des disquettes.
Des disquettes, ouais. Je l'entends.
Malheureusement, on se retrouve en fait face à ça.
Personne. Non, mais c'est vrai, il y a un divorce. Moi, je pense que vous avez raison. Il y a un divorce entre, évidemment.
Il y a une énorme séparation, là.
Merci, Anan, d'être intervenu. Il faut que j'avance. Anan, mille merci à vous. Vos propos sont extrêmement importants. Et ils ont une portée, et tout leur sens, justement, sur notre antenne. Merci, Anan. Portez-vous bien. Allez tout de suite, direction l'Arabie Saoudite avec Nasser, le débatteur, justement, sous une ambiance footballistique. Bonsoir, Nasser.
Adil, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe.
Alors, justement, Nasser, vous êtes à Jeddah, précisément, c'est ça?
Et à Riyad, exactement.
Vous êtes à Riyad, donc la ville pas très loin de Jeddah, où le PSG, justement, retrouve Ronaldo. Alors, quel est...
Eh oui, ça sera...
Racontez-nous d'abord, comment c'est perçu là-bas en Arabie Saoudite? Comment est attendu choc? Et racontez-nous un petit peu, décrivez-nous un petit peu cette ambiance.
Bah écoutez, c'est une ambiance incroyable parce que c'est tout le football mondial qui a les yeux rivés sur Riyad. Il faut savoir quand même qu'il y a eu la Super Coupe d'Espagne, Real Madrid-Barcelone, il y a quelques jours. Et ce soir, j'étais encore d'ailleurs avec les dirigeants de l'Inter de Milan. L'Inter reçoit donc le Milan AC à Riyad pour cette Super Coupe d'Italie. Et puis demain, le Paris Saint-Germain face au CR7 de Cristiano Ronaldo. Oh, on peut pas faire mieux hein, dans le monde du football actuellement. C'est vraiment tous les meilleurs joueurs mondiaux qui se retrouvent ici à Riyad dans une ambiance extraordinaire.
Alors moi, vous savez,
c'est bouché de partout.
Alors je laisserai le soin de commenter, de faire du commentaire sportif auprès de Bilal Lenman tout à l'heure. Moi, c'est plutôt je dirais l'actualité, l'information. Il y a des questions qui m'interpellent, vous savez, qui me rongent. D'abord. Tout d'abord, cette folle somme déboursée, on parle de 2,4 millions d'euros pour organiser ça. Est-ce que franchement, c'était prioritaire?
Ah, franchement, après, alors, vous savez, ici, c'est un puits sans fond. En fait, quand vous voyez qu'il y a eu un prince qui s'est permis d'acheter la place de football, un peu plus de 2 millions d'euros cash pour assister à cette rencontre et pouvoir aller dans les vestiaires rencontrer ses idoles, à savoir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, c'est sans commentaire. Alors qu'on sait que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Je peux vous dire qu'ici, c'est pas du tout le cas. Après, quand on veut parler, par exemple, de l'écologie en France, par exemple, bah ici, on lutte pas contre l'écologie, je crois pas. Hein, vous voyez ce que je veux dire?
Dites-moi, dernière question, mon cher Nasser. Justement, est-ce que c'est pas un véritable coup marketing pour lancer le championnat en Arabie Saoudite, mais notamment l'arrivée de Ronaldo?
Bah en fait c'est plus que la pro saoudienne hein, la Saudi Pro League hein, qui est en train d'être promouvoir entre guillemets, parce que là on parle de la Coupe du Monde en 2030. C'est ça que l'Arabie Saoudite vise hein, et je peux vous dire qu'ils mettent les moyens. Ils ont signé un contrat colossal avec la Fédération Italienne de Football, plus de 120 millions d'euros sur 4 ans afin qu'ils puissent avoir la Super Coupe d'Italie chaque année à Riyad. On appelle ça le Riyad Season Tour, et donc vous comprenez bien qu'en fait chaque année on devra revenir à Riyad pour suivre toutes les grandes équipes européennes ici sur le sol saoudien.
Ben écoutez, on vous retrouve Nasser en duplex et évidemment depuis Riyad dans l'émission de Bilal Lenman à partir de 20h, c'est bien ça hein?
Oui, exactement. Dès ce soir à 20h, on continuera à débattre. En plus, une grosse actualité du côté de Bilal dans Thème Sport avec le Paris Saint-Germain. Et puis, on parle beaucoup du football français. Est-ce qu'il est décimé? Est-ce qu'il est en déclin? Voilà, c'est ce soir, encore une fois, un gros sujet dans l'émission de Bilal dans Thème Sport de 20h à 21h. On va passer encore un bon moment. Merci encore Adil, merci à tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est aussi grâce aux auditrices et aux auditeurs qu'on est là qu'on donne de la force pour pouvoir aller se déplacer loin dans les comtés à travers le monde et faire partager à tous ceux qui nous écoutent Merci. Le football et les émotions.
Merci Nasser de nous avoir fait partager évidemment ce moment. C'est demain soir le choc, hein. Demain soir qui est attendu.
Demain soir, heure 18h, heure française et 20h, heure locale.
Oui, absolument. Merci mon cher Nasser, on vous retrouve chez Bilal Nedman tout à l'heure. Mais il fallait absolument qu'on le fasse vivre et en parler. C'est une très bonne chose. Prenez soin de vous. Vous étiez depuis Riyad avec nous. Le Quoi de Neuf.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, c'est, vous le savez, tous les mercredis, c'est avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Le professeur, docteur Majid Soussien. Bonsoir.
Bonsoir Adil.
Comment ça va? Vous allez bien? Ça fait plaisir de vous entendre, dites donc.
Bah écoutez, pas trop mal, mais indépendamment du fait que je prépare mes semelles pour demain.
Bravo, bien joué, justement. Votre billet d'humeur, ça parle de retraite, d'écologie, d'électricité. À vous la parole, comme dirait l'autre.
Eh bien écoutez, mon cher Adil, ça y est, nous sommes sauvés. N'en déplaise à BFM TV, le Nostradamus des chaînes info. Nostradamus qui, je vous le rappelle, avait annoncé la fin du monde pour l'an 2000. Donc n'en déplaise à BFM TV, nous avons évité la panne électrique grâce à la sobriété des Français, grâce à leur sens civique, mais surtout grâce à l'augmentation du prix du courant. Et on finit par se demander si tous les écologistes ne se sont pas plantés lamentablement en prenant un air triste, une figure compassée, pour nous expliquer que nous allons manquer d'eau, que nous allons prendre des coups de soleil, ne plus pouvoir porter des pulls marins bretons, en espérant ainsi nous convaincre. Eh bien, erreur. Plutôt que de la figure de Greta Thunberg déguisée en Zora Larousse, les couettes en moins, nous parlons de la pénurie d'eau potable, il suffit de mettre le litre à 2 euros comme le super, et vous verrez, mesdames, qu'Adil qui passe des heures sous la douche à s'enduire son corps musclé d'huile d'argan.
Mais oh, ça va pas vous craquer, mon cher docteur!
L'huile d'argan qui fait venir par jet privé de Marrakech, va se mettre tout d'un coup à la toilette de chat.
il est bon, ce docteur.
Et Bruno Le Maire aurait dû y réfléchir plutôt que
ça
de
sonne,
mettre en
ça sonne, docteur, ça sonne, ça sonne, c'est votre bureau là. Dites à votre secrétaire de répondre.
Oui, elle est en 35 heures. Plutôt que de mettre en place un bouclier ruineux sur l'essence, il aurait dû payer un vélo fabriqué à Besançon à chaque Français capable de pédaler. N'est-ce pas d'ailleurs ce que l'on aurait dû faire si on réfléchissait un peu du côté de Bercy, de Matignon, voire d'Alexis Kohler, plutôt que de nous obliger à de longues marches épuisantes sous la pluie glaciale, faute de transport en commun. Il faut dire quand même qu'à la RATP, la disparition des dinosaures, c'est rien à côté du départ à la retraite à 64 ans plutôt que 59. Eh bien donc, plutôt que ces journées de grève pour le maintien de la retraite à 62 ans, Macron aurait dû proposer la retraite à 35 ans. Il serait rentré dans l'histoire. Tout le monde le vénérerait, les femmes se jetteraient à ses pieds. Les dockers de la CGT lui taperaient sur l'épaule en lui claquant du « Salut Manu !» Ses amis de chez Rothschild, même eux, le remercieraient. Car dans nos égoïsmes individuels, chacun y trouverait son compte. Car voyez-vous, la retraite, c'est comme l'écologie. Ce qui freine les décisions, c'est la philosophie du « après moi le déluge ouais. ». Peu importe la planète qu'on laissera, peu importe la charge qu'on imposera aux actifs futurs qui paieront nos retraites, peu importe l'état des finances, la France en ruine sera moins chère quand on la vendra les bijoux de famille aux financiers étrangers.
Ah là là, quel régal! Quel régal, je vous applaudis. Quel régal! Merci, docteur Majid Soussina.
À votre service, mon cher Adil.
Quel régal! J'ai presque envie de vous dire, venez tous les jours, hein.
Écoutez, il faut écrire quand même
vous,
tous les jours.
Non, mais justement, vous coûtez cher. Vous coûtez trop cher. Si vous venez tous les jours, ça va coûter trop cher. Vous coûtez trop cher.
Mon cachet est très, très élevé.
Je sais. Bah, docteur, c'est normal, hein. Il a besoin de vie, hein. Merci,
et
docteur.
Et oui. Mauvaises habitudes en plus.
C'est ça. Allez, prenez soin de vous.
À bientôt, au revoir.
À bientôt, 18h35, on fait une pause et on se retrouve tout de suite après au 01 53 48 3000, mais également aussi avec les débatteurs influenceurs qui sont en place et qui sont en train de se régaler auprès de cette galette des rois. Elle est bonne au moins? Elle est bonne, chers amis?
Très bonne.
Elle est très bonne?
Excellente.
Confirmé.
Frangipane.
Pierre-Henri, regardez, régale. Oui. Gamalabina.
Alors il faut pas.
Henri Pémo. Je lance la pub et à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Allez, 18h41 précisément, Les Informés, tout de suite, vous le savez, je continue de prendre les auditeurs au 01-53-48-3000, mais là, nos débats.
01-53-48-3000, Les Informés vous donnent la parole.
On a Abba, avant d'ouvrir le micro à tous les débatteurs influenceurs qui sont avec nous sur le plateau. Abba, bonsoir, vous appelez de Paris.
Oui, bonsoir Adil, comment ça va?
Mais très bien, c'est bien, ça fait tellement longtemps, mon cher Abba.
Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Il y a 3 jours, on a parlé ensemble.
Exactement. Dites-moi, Abba, vous faites quoi dans la vie? Rappelez-moi.
Alors moi je suis dans le BTP.
Ah oui, c'est ça, exactement. Ah bah alors, demain, qu'est-ce que vous dites?
Mais bien sûr, révolte à 1000%.
Oh, clochette.
Bien sûr, mais grande révolte, c'est black, quoi.
Ouais. Ouais.
C'est ce qu'il faut de toute manière, Adil, c'est plus possible de vivre.
Bah, vous êtes remonté, hein.
À la fin du mois, on n'a plus rien sur nos comptes bancaires. Mmh. On n'arrive même pas à économiser. Mmh. Le pouvoir d'achat, il a augmenté. Les biens immobiliers, ils ont augmenté. Les entrepreneurs, la plupart, ils ont mis la clé sous la porte.
Attendez, il y a Pierre-Henri qui est le président de France Fatalité qui vous pose une question. Oui. Pierre-Henri.
Pourquoi demain?
Ça le ronge, là, il était obligé de s'emparer du micro. Bah il vous écoute ça, elle s'appelle Abba.
Bonjour Abba, bonsoir Abba. Mais dites-moi, demain c'est une manif pour le pouvoir d'achat, j'ai raté une marche?
Non, c'est pour la réforme des retraites aussi.
Ah,
c'est un tout, monsieur.
C'est un tout, monsieur. Vous entendez, monsieur?
Vous prenez votre retraite dans combien de temps, vous?
Comment? Bah, dans pratiquement maintenant 35 ans.
Vous êtes jeune.
Vous allez voir quelques réformes.
Excusez-moi, monsieur, quand je vois mon père qui a travaillé 44 ans.
N'est-ce pas, monsieur? Alors, s'il vous plaît.
Eh bien, moi, 45, madame.
Oui, ben voilà, justement. Non, c'est plus possible de vivre comme ça, monsieur. C'est plus possible. Tous les 4 matins, on nous sort une nouvelle loi sans même prendre l'avis de la communauté ou du peuple français.
Mais vous avez voté, madame.
On a voté, mais excusez-moi, monsieur, on a tous voté à contre-cœur pour Macron. Parce qu'on n'avait pas le choix. En face de lui, il y avait Le Pen. Il y aurait quelqu'un d'autre, ça aurait changé la donne. Faut dire ce qu'il est, faut appeler un chat un chat. Macron n'a pas été voté par beaucoup de personnes parce qu'il le voulait. C'est parce qu'il y avait Marine Le Pen en face de lui.
Oui, mais il est quand même arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 28%. Donc, c'est
qu'il
y a quand même un socle.
Il est arrivé en tête, mais bon, il était
un macroniste de premier rang
de base dans la société française.
Mais tout ce qu'il fait, toutes les réformes.
Parlez avec un macroniste, justement, Nabila Itakash, qui nous vient du 93, le représentant du 93. Non, mais vous avez raison, Abba. Parlez justement à un macroniste.
J'ai une question à vous poser, Abba. Vous êtes dans le secteur du BTP.
C'est pas un problème. Eux, ils sont derrière leur chaise, assis au Parlement.
Non, madame. Alors, Nabil. C'est comme ça que c'est perçu, Nabil. Nabil Itakash. Itakash, pardon.
Notre intérêt, c'est pas du tout d'être derrière le président. C'est vraiment que la société française se réforme. Et moi, je voulais vous poser une question. Assurer la pérennité, bien sûr, du système des retraites, parce que, enfin, je sais pas si vous savez, dans d'autres pays, quand même, qui n'ont pas voulu faire ces retraites, il y a eu des coupures sur les pensions, quand même. Nous, on veut pas en arriver là. On veut assurer la pérennité.
Mais on a eu aussi des coupures, monsieur, sur les pensions.
Non, on n'a pas fait de coupures sur les
Nabila Itakash. Écoutez le cri d'alarme, Nabila Itakash.
Mon père, on a coupé 130 euros qu'on lui a jamais remboursé.
Moi, franchement, je vous promets, c'est pas pour la défendre à bas. Mais tous les jours, Anthony vous le dira, on a eu le droit à ça sur notre antenne.
Non, mais ça, je le
dis. N'est-ce pas?
Il y a des choses cachées, vous prenez d'un côté,
ça vient des quatre coins de la France.
Réveillez-vous, révoltez-vous les jeunes. C'est maintenant ou jamais. Ils volent quelque part pour bouger quelque part.
Jamais, quoi.
Ça a toujours été comme ça.
Maintenant ou jamais.
C'est deux quinquennats qui nous fait la même chose, Macron. On en a marre de Macron. Il faut qu'il parte, Macron.
Et vous voulez quoi à la place?
Mais
vous proposez quoi à la place?
Ah ben c'est un boulevard pour Marine Le Pen, monsieur. Non?
Écoutez, j'en suis arrivé au stade de dire que je préfère Marine.
Non, clochette! Clochette! Non, Abba! Je vous aimais bien, Abba, justement, dans votre combat, dans votre révolte. Moi, ça me faisait kiffer, justement, votre révolte, parce que je l'entendais. Mais tout sauf Marine.
Mais
pas Marine! Ne succombez pas à la chose facile.
Il faut quand même expliquer une chose.
Leur réponse est déjà prête. La première chose qu'ils disent, les macronistes, mais vous proposez quoi à la place? Mais parce que vous avez à dire, vous avez rien d'autre à dire.
Non, madame,
parce
c'est pas vrai. Donc nous, la réforme des retraites, vous savez que 40% des Français qui, sur cette réforme, partiront avant l'âge légal de la retraite. On a mis la première ministre a préparé un texte qui permette de créer des dispositifs qui permettront aux Français de partir plus tôt s'ils ont eu des carrières hachées, s'ils ont eu des notamment pour les femmes.
Donc manifester la réforme est sans doute peut-être un prétexte, parce que quand on voit les à côté, le pouvoir d'achat qui a augmenté, même les magasins de bas de gamme comme Lidl, on peut plus faire nos courses dedans. On ne peut plus, tout est cher, monsieur.
Mais oui, mais madame, ça, je vous entends et vous avez raison. Ça, je vous entends et vous avez raison sur le pouvoir d'achat. Mais ça n'a rien à voir avec la réforme des retraites.
Bah justement, je vais vous répondre pourquoi. Au lieu de se prendre la tête à faire des nouvelles réformes comme la réforme des retraites, il devrait d'abord réfléchir à comment sauver le pouvoir d'achat de son pays.
Mais madame, vous savez que c'est parce que pendant 40 ans, les politiques n'ont pas pris leurs responsabilités qu'on en est là aujourd'hui, en fait, si vous voulez. Oui, donc c'est pareil, si vous voulez que dans 20 ans ou 30 ans, on n'en soit pas à réduire les pensions, il faut prendre ses responsabilités aujourd'hui.
La mesure d'âge ne s'imposait pas véritablement. On a une durée de cotisation.
Entendez ce qu'elle vous dit, entendez.
Mais on entend.
C'est facile de dire qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était comme ça.
Non, je dis pas
que c'était
monsieur,
comme ça. Il y a 15 ans, quand on allait faire nos plans de course, c'était 100 euros. Oui, aujourd'hui, on est à 250
c'est un autre sujet.
Euros,
ouais. Il y a une chose qu'il faut dire.
Moi, j'entends, vous savez quoi, ce que j'entends moi, j'entends que c'est un véritable cri d'alarme.
Je peux lui parler d'une chose.
Mais oui, c'est la crise.
Gamal Abina. Gamal Abina, après, je vous libère.
Écoutez-moi, parce que je suis frontalement opposé au Front National pour des raisons simples. Il faut arrêter de rêver. Le Front National, en dehors du racisme, mettons de côté le racisme, d'accord, soyez-en, ça devient les gens sympathiques, on met ça de côté. Le Front National est un parti qu'on appelle ultralibéral. C'est-à-dire que la ligne prônée par le père Le Pen et la fille Le Pen, c'est la ligne Thatcher-Reagan. Donc si vous pensez que le Front National sera plus doux en termes sociaux, vous faites une erreur. Il va écraser les plus faibles, il va écraser les plus pauvres, parce que
mais
évidemment, ce sont des ultralibéraux.
Comment ? Vous croyez que Macron, il fait quoi ?
Ça va être pire, le Front National.
Aujourd'hui, en France, vous savez, monsieur, il y a les riches et les pauvres. Il n'y a plus la classe moyenne.
Il y a toujours une classe moyenne. N'allez pas trop vite, madame.
Il y a toujours une classe moyenne, mais c'est la paupérisation.
Bon, de toute façon, écoutez, elle est en colère, elle est révoltée, ça s'entend. Moi, je vous le dis, ça s'entend, et vous l'avez exprimé de façon libre sur notre antenne sans aucun problème.
Oui, je vais juste rajouter ça, Adil. J'appelle aujourd'hui, et vraiment, je le dis du fond du cœur, toute la jeunesse française à demain descendre dans les rues de Paris ou dans les rues des grandes métropoles françaises dans le cadre national, et faut que ce soit les lycéens, même les collégiens, vous savez, les universitaires. J'appelle à tous les jeunes de France
vous
de
me
se révolter.
Non mais après c'est son droit. Merci beaucoup Abba d'être intervenu. Merci à vous d'être intervenu. Effectivement, et à la droite évidemment d'appeler une jeunesse. Oui, bien sûr. Et vous avez le droit d'être en désaccord tout de suite. Allez, c'est parti. 18h48. J'ai pris beaucoup de retard, mais ça valait le coup que vous échangez avec Abba. C'est parti, le face à face.
Les informés. Le face à face.
Et le face à face, vous le savez, c'est avec vous les connaissez, ces voix, elles sont régulières, elles sont récurrentes. Pierre-Henri, bonjour.
Bonjour.
Le patron de France Fraternité. Un jeune élu, justement, les jeunes en parlant de jeunesse de l'île Saint-Denis, il s'appelle Henri Pémot. Bonjour.
Bonsoir Adil, bonsoir aux éditeurs.
Le représentant, justement, du 93 de Renaissance, notre macroniste à nous ici, c'est Nabil Aitakash, bonsoir.
Bonsoir Adil, je suis plus qu'un macroniste.
Oui, mais en Renaissance,
essentiellement.
Qui aime bien, châtie bien, on taquine, ouais, on aime bien taquine. Bien, bien. Gamal Abina, que je ne présente même plus, ça va?
Très bien, et vous Adil?
Messieurs, premier sujet, parlons de cette grève. Cette grève qui s'annonce demain, jeudi noir. Alors justement, faisons un tour de table avec ce que vous venez d'entendre. Et puis, évidemment, on entend tout. Je vous le dis clairement, j'ai ouvert l'antenne tous les jours, on est mercredi. Depuis la semaine dernière, je parle de la grève. Et depuis la semaine dernière, il y a une véritable révolte dans les esprits. Il y a un véritable, comme l'Abba, un cri d'alarme qui n'est pas, j'ai le sentiment, je vous le dis clairement, qui n'est pas entendu. Pierre-Henri.
Oui, il est possible que l'exécutif ait pris un risque inconsidéré en lançant cette réforme. Je rappelle qu'il y a trois variables pour la réforme des retraites. Hein. Il y a la durée de cotisation qui aujourd'hui est à 43 ans et qui a été votée en 2013 par le gouvernement de François Hollande. Il y a le taux de cotisation, évidemment. On peut, un certain nombre d'ailleurs de salariés qui ont été consultés dans un sondage récent disent qu'ils sont plutôt pour l'augmentation de ce taux de cotisation. Puis il y a la mesure d'âge. Et la mesure d'âge reportée de 62 à 64 ans, même si j'entends qu'il y a un certain nombre de carrières longues et des situations de pénibilité au travail.
C'est 40%.
Qui seront...
40% quand même.
Oui, ben, il en reste 60 et... Et 60%, et la mesure d'âge aujourd'hui est incomprise. Et elle est d'autant plus incomprise que un certain nombre...
Non, c'est plus que ça. Non, je vous arrête, Pierre-Henri. C'est pas elle est incomprise. Elle est non seulement incomprise, mais surtout on le sentiment, justement là, d'être badané dans cette histoire.
Non, mais elle est incomprise parce que aussi un certain nombre...
C'est surtout ça qui dérange.
Un certain nombre de corps
intermédiaires... C'est pas d'être incomprise.
un certain nombre de corps intermédiaires, et je pense par exemple à un syndicat réformiste comme la CFDT, ont prévenu depuis longtemps qu'il y avait une ligne rouge à ne pas franchir, et que, en disant d'ailleurs que la mesure d'âge, le report d'âge de 62 à 64 ans ne s'imposait pas. Ils n'ont pas été entendus, mais depuis le début du quinquennat Macron, du premier quinquennat. En fait, Macron s'est assis sur les corps intermédiaires. Et moi, je le trouve très imprudent en réduisant finalement les manifestations qui auront lieu demain à un caractère d'irresponsabilité.
Non, c'est pas très sérieux d'avoir dit.
Ce n'est pas.
Un chef d'État ne parle pas comme ça.
Voilà. Je pense que c'est une erreur fondamentale. À moins qu'il y ait un autre calcul derrière, qui est tout simplement le pourrissement de la situation et d'amener à une dissolution. Ça peut être aussi un autre calcul qui est fait par l'exécutif.
C'est plausible.
Je trouve qu'il est extrêmement périlleux.
Périlleux, mais attention, explosif.
Périlleux et explosif.
Oui. On marque une pause, on se retrouve avec Henri Pémo justement. Je lui donnerai la parole avec Nabil Etakash et Gamal Amina. Tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h54, chers amis, attention, nous sommes en antenne avec Pierre-Henri, avec justement Henri Pémo, avec Nabil Etakash, avec Gamal Amina, et je donne le micro justement, je voudrais entendre tous les sons de cloche. Henri Pémo, l'élu de l'île Saint-Denis, justement, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous dites?
Tout d'abord, pour revenir sur la réforme des retraites, et je pense que tout le monde doit être d'accord sur ce postulat, elle est indispensable. Je pense que qu'on ait vu l'évolution démographique, ou qu'on ait lu le rapport du corps, c'est indispensable. Il y a un sujet. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'on veut travailler plus longtemps? Et ça, c'est un sujet à la fois philosophique et politique.
Oui.
Et je pense, la majorité des Français ont dit, on ne veut pas travailler plus longtemps. Et c'est là où le président et son gouvernement doivent entendre, et doivent faire preuve aussi de considérations politiques différentes, où il faut savoir présenter les différentes options possibles, que Pierre-Henri aussi énumérait, et voir aussi avec la population ce que la population voudrait. Et donc ça, je pense que c'est le premier point, et peut-être la première erreur de notre président, c'est de partir très vite, très rapidement, sur cette mesure d'âge que tout le monde conteste.
Alors, Nabil Etakash.
Écoutez, moi, j'entends...
Ça vous range.
Non, pas du tout. Mais, comment dire cette réforme, nous, on l'assume, et on assume le choix philosophique dont vous parliez tout à l'heure, qui est le choix du travail. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, par rapport à comment le monde fonctionne, que ce soit autour de nous, dans les pays européens, ou même dans le reste du monde, nous, on fait le choix du travail. Là, c'est philosophique. Là, on
fait choix. Vous allez laisser finir et vous allez nous expliquer pourquoi.
Alors, pendant 5 ans, on a mis en place des politiques qui permettent de remettre les gens sur le marché du travail, avec une baisse du taux de chômage quand même historique depuis 15 ans. Et oui, il faudra travailler plus. Parce que c'est aussi une question de souveraineté à un moment. Si on n'est plus capable de financer notre système de retraite et qu'il faut aller recourir à l'emprunt dans 15, 20 ans ou 30 ans, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc oui, c'est une question de responsabilité. Nous assumons ce choix philosophique de faire on demande simplement aux Français de travailler un petit peu plus de manière très progressive. Avec quand même, encore une fois, je le répète, pour 40% des retraités, la pension sera améliorée pour 40%. Donc personne ayant fait une carrière complète ne touchera moins de 1200 euros brut. Donc tout ça,
là, vous allez lui répondre.
C'est une réforme.
Attendez,
qui réduit,
là, vous êtes plusieurs.
Qui réduit
s'il vous plaît, dans l'ordre. Henri Pémo et puis Henri.
Complémentaire.
Bah, là où Nabil, je suis pas d'accord avec toi, c'est de dire que on est pour le travail. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le système de retraite, il faut le faire évoluer. Le faire évoluer, c'est effectivement faire peser un petit peu plus l'effort sur les actifs. Maintenant, faire travailler davantage, ce n'est pas la seule option.
Comment tu fais peser le plus sur les actifs?
J'ai vu
le taux de cotisation. Le taux de cotisation.
Le taux de cotisation.
Non, mais donc on alourdit le coût du travail. C'est ce que tu es en train de dire.
Il y a énormément d'actifs.
Qui est déjà énorme en France. C'est pas une option.
Il faut savoir aussi écouter notre population. Il y a énormément d'actifs qui préfèrent que le salaire net soit moindre que de travailler jusqu'à 60
ans. Mais je crois pas, on a écouté Abba juste avant. Personne n'acceptera qu'un taux de cotisation supérieur. On va dire la vérité aux Français quand même. Si on joue sur le taux de cotisation, c'est-à-dire que soit les employeurs payent un taux de cotisation plus élevé, et ça veut dire donc plus cher de recruter des gens, donc les gens restent au chômage. Concrètement, c'est à peu près ça. Si on le fait peser sur les actifs, ça veut dire qu'en fait, ils perdent du pouvoir d'achat. Ce n'est pas notre choix. Donc oui, on demande aux Français de travailler un petit peu plus.
Le taux de cotisation, c'est jusqu'à le salaire d'ici 2030.
Exactement. Tout à fait.
Je vais en parler un peu quand même. Je me permets juste de.
Non, mais vous allez parler. Vous inquiétez pas. Je gère Gamal Abina. Vous inquiétez pas.
Parce qu'on continue dans cette trajectoire.
J'attends le moment.
On est en train de se dire que payer plus de cotisations, c'est faire alourdir. Non, c'est pas faire alourdir. C'est que ces cotisations-là qui sont payées aujourd'hui vont servir aux retraites de demain.
Oui, mais les gens veulent du pouvoir d'achat aujourd'hui. Vous voyez bien qu'il a raison, finalement.
Il y a une incompréhension.
Non, ça ne fonctionne pas. Il y a une incompréhension parce que je pense que les gens ne réalisent pas ce que ça veut dire, en fait.
Gamal Abina. Clochette. Gamal Abina.
Ça, c'est pas bien d'avoir dit ça.
Non, mais je parle pas de ça. Non, je
vous
parle,
allez vous
non,
faire flinguer, Nabila Itakache.
Non, je parle pas des gens sur les. Je parle sur l'opposition à la réforme des retraites. Quand on parle du taux de cotisation, je pense qu'on ne sait pas ce que ça veut dire.
Vous rebondissez bien. Il retombe sur ses pattes comme un bon chat.
Non, mais moi, je ne veux pas que les gens.
Gamal Abina.
D'abord, on a entendu une femme qui était en colère tout à l'heure pour d'autres raisons.
Ils sont. Et hier, j'avais une nana de.
Parce qu'aujourd'hui, les Français qui vont manifester demain, en l'occurrence, c'est un agrégat de personnes qui ont de multiples raisons d'être en colère. La première, évidemment, évidente, c'est le pouvoir d'achat qui baisse. Donc quand on fragilise une population dans son entier parce qu'on est incapable de prendre des choix politiques, à savoir...
Mais il ne faut pas dire qu'on fragilise...
S'il vous plaît, je n'ai pas fini. On fragilise une population, je le maintiens. Quand on n'est pas capable de maintenir un pouvoir d'achat et qu'on n'est pas capable de contrôler les prix, de faire en sorte
que là où il tient la route quand il dit ça.
La spéculation s'éclate à bon train, comme le disait Leclerc, il y a des gens qui en profitent. Quand on n'est pas capable de faire en sorte que des profiteurs mettent à mal la population, déjà, on baisse d'un ton. Ensuite, deuxième chose, quand M. Macron dit ils sont irresponsables, je trouve ça intolérable de sa part. Depuis quand la population doit être responsable de la direction politique.
Gamal Abina se met en colère.
C'est très énervant, c'est condescendant.
Bah moi aussi, j'ai pas compris.
Arrêtez de planter. Ils ne sont pas irresponsables, les gens. Ils suivent.
Ça veut dire quoi, c'est irresponsable?
Des 40 dernières années. Donc on n'a pas à dire aux Français qu'ils sont irresponsables. Les irresponsables, c'est les crétins qui n'ont pas su gérer l'État. C'est cela l'irresponsable.
Non, c'est chaud d'avoir dit
ça. Parce qu'ils sont responsables politiques. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut arrêter de blaguer sur l'histoire de la réforme. Un peu de courage. Les États-Unis, c'est malin. Ont réussi à capitaliser à mort sur la guerre d'Ukraine en faisant du joint companies. Ils ont récupéré les compagnies européennes, donc ils récupèrent des compagnies, ils récupèrent de l'emploi, ils augmentent l'assiette fiscale, ils augmentent l'assiette de cotisation dans un pays ultralibéral. La France
dans un pays qui travaille beaucoup.
Ultralibéral.
Dans un pays
ultralibéral et qui fait pas de cadeaux. C'est un pays en plein Kleenex. Ultralibéral. J'utilise des termes à dessein. Et donc la France aurait dû, s'il y avait des hommes à la hauteur de l'État, aurait dû faire le même travail de brain company, d'amener des compagnies étrangères, de créer de la richesse, de créer de l'industrie et d'augmenter le nombre de cotisants pour ne pas frapper sur ceux qui sont les plus fragiles. C'est ça la vraie réforme qui aurait dû avoir lieu. Elle n'a pas lieu. Après, pour finir, c'est très amusant parce que je trouve dans cette réforme, on fait oublier une chose. L'augmentation de l'âge, bon, ça c'est une arnaque des élections qu'on a vues, mais c'est pas ça le problème. C'est les fameux régimes spéciaux. Là, on n'en parle plus. Exactement. Donc apparemment, certains régimes ont échappé à cette réforme. Et ça, c'est intéressant de rentrer dans le cœur du débat. Pourquoi est-ce que les fonctionnaires, en substance, c'est eux qui sont concernés par ces régimes spéciaux, vont sans doute échapper à cette réforme quand le privé va se supporter? Eh bien, c'est les questions qu'on doit poser et les réponses qu'on doit apporter à la population.
Donc ça confirme bien qu'il y a une incompréhension.
Oui, et qu'il y a eu un manque de débat en amont, et que l'élection présidentielle a été un moment de non-débat dans le pays. Et donc, il ne faut pas s'étonner non plus qu'à l'occasion d'une réforme essentielle qui touche à la vie des gens, eh bien, bien évidemment, il y a un certain nombre de tensions. Alors, on a abordé certaines possibilités sur la mesure d'âge, sur le taux de cotisation, sur la durée de cotisation. Mais il y a aussi un autre sujet, quand même, que tout le monde connaît. L'emploi des seniors.
Exactement.
C'est bien beau dire vous allez partir à la retraite à 64 ans, quand on sait en réalité le taux de chômage qui frappe les seniors, en gros les personnes à partir de 50 ans. Alors j'ai entendu la réponse d'Elisabeth Borne disant mais vous inquiétez pas, on va créer un index des métiers pour les seniors. Non mais sincèrement, alors, Elisabeth Borne, j'aime beaucoup. Bon, voilà, elle est courageuse. Mais enfin, là, c'est de la start-up, comment, de pacotille. On va nous, on, on va, On nous promet un index sur l'emploi des seniors. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand les mecs et les femmes sont au chômage? C'est pas sérieux.
Il veut dire quoi par index? Non, mais, ça veut dire que vous êtes défaitiste, en fait. Ça veut dire pour vous que les seniors, en fait, ne retourneront jamais. Les seniors.
Non.
Éloignés de l'emploi ne retourneront jamais sur le chemin.
Je ne suis pas terminé.
La réforme.
Non, mais c'est intéressant.
Oui, il y a un sujet sur l'emploi des seniors. Le président de la République l'avait déjà reconnu il y a un certain temps. Il y a un vrai sujet. Mais c'est pas parce qu'il y a un sujet sur l'emploi des seniors qu'on doit pas faire de la réforme des retraites. Non, pardon. C'est comme l'apprentissage, en fait. On nous disait que l'apprentissage, ça marcherait pas, etc. Au final, les politiques publiques, on l'a vu, avec des politiques publiques qui permettent.
Je vous indique qu'il va falloir faire exactement la même chose pour les seniors.
Moi, je dis pas, il va falloir avoir des politiques pour l'emploi des seniors qui soient très fortes. C'est évident. Mais ça veut pas dire, ça veut pas dire que parce qu'on les a pas encore aujourd'hui, qu'il faut pas faire la réforme des retraites.
C'est ça,
Pierre-Henri Pemot, s'il vous plaît.
Que l'on va faire, c'est que de toute façon, l'emploi, ce n'est pas le gouvernement qui le décide, mais c'est les entreprises. Or, les entreprises, à partir de 50 ans, un certain nombre de chefs d'entreprise considèrent que vous êtes bon.
Oui, mais c'est des mentalités à faire changer. Henri Pemot, c'est des mentalités à faire changer.
Je vous dis quelque chose, je suis favorable à la réforme des retraites, mais je ne suis pas favorable à la méthode qui a été employée parce que il y a une absence de dialogue total.
Il y a eu du dialogue sur tout le premier quinquennat, c'est pas vrai.
Exactement. Non, je peux pas te laisser dire ça. Et pourtant, je suis pas contre
l'absence de dialogue total.
Mais l'absence de dialogue a été symbolisée par une des premières choses qu'avait dit le président Macron lors de son premier mandat, c'était que les organisations syndicales ne fonctionnaient plus. Et à partir de là, en fait, la fracture était déjà passée. La représentativité syndicale est problématique.
C'est quoi le taux de représentativité?
Mais pour autant, on est obligé de faire avec. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour revenir sur les seniors, sans rentrer dans des gages trop techniques, c'est que les seniors, souvent, pourquoi on les recrute pas? Soit parce qu'on les pense en fin de carrière,
ils n'ont plus les compétences,
etc. Parce que ça coûte trop cher. Et justement, quand on parlait des cotisations, il faut que l'allègement des cotisations, ce soit de ce côté-là, du côté des seniors.
Mais là, vous êtes en train de parler de quelque chose qui n'est pas le sujet aujourd'hui.
Bien sûr que c'est un autre moment de la réforme. Écoutez-le attentivement.
L'emploi des seniors se gère pas sur le moment de la réforme des retraites. C'est ça que je suis en train de dire. C'est un sujet tellement important qu'il faut le traiter à part.
Et je pense qu'on l'a vu avec notre auditrice.
J'aime bien Pierre-Henri.
Je pense qu'on l'a vu avec notre auditrice. En fait, on a une multiplication de personnes avec plein de problèmes qui vont demain s'opposer, pas forcément pour toujours la réforme des retraites.
Les seniors.
Demain, c'est le moment de tout balancer.
Ou d'échouer.
Et de dire que on va parler des seniors plus tard. Non, c'est non.
Et je vous dis pas ça comme
c'est
ça.
Non réponse mais ce que vous voulez,
mais là il y a une réforme, il y a une réforme.
Parce que certains vont rétorquer. Ok, d'accord, très bien. Vous voulez la réforme maintenant, mais les seniors, elle est plus tard.
Donc on continue de vous endormir.
Mais certains pensent comme ça. Gamal Abina.
Je vais juste faire remarquer une chose. D'abord, il y a des méthodes de communication qui ne sont pas malheureusement appliquées. Je rappelle tout de même que ce qui a pourri l'ambiance littéralement, et là la responsabilité gouvernementale est largement engagée, c'est le 49-3 en cascade. Ça donne le sentiment que, et c'est pour ça que je crois pas du tout en dissolution, parce que il a une assise, l'Assemblée ça compte pas beaucoup et il fait ce qu'il veut. Donc la problématique qui se pose c'est cette façon
de dire. Non, il y a des institutions, on fait pas ce qu'on veut en France. Il y a des institutions.
Le 49-3, il fait ce qu'il veut.
Non, il peut être utilisé qu'une fois par.
Il l'a utilisé 10 fois depuis la fin de l'année.
Non, sur des textes budgétaires.
C'est comment la retraite est passée. C'est pour ça que 49-3, il peut
l'appliquer. Il va passer maintenant, on est d'accord.
Oui, ça peut. C'est une option.
C'est une épée de Damoclès qui est utilisée et qui est très arbitraire. Quand on a un Parlement, on discute avec le Parlement. Ce que je veux dire, c'est que la réforme est nécessaire, il n'y a pas à discuter. Les méthodes pour la mettre en place, elles peuvent être discutables et on doit les discuter. Et de dire tout et n'importe quoi, par exemple, tu viens de dire à l'instant que.
Merci pour le tout et n'importe quoi, oui.
Non, mais pas toi. Il ne dit pas tout et n'importe quoi.
Je parle pas toi, je dis tout.
C'est quoi, j'ai même sollicité nos auditeurs, tiens. Comme à bas. Est-ce que vous êtes en colère?
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Allez, si vous êtes en colère, vous aussi, comme à bas, je vous attends. Venez converser avec nos débatteurs. Alors, Gamal Abina.
Par rapport à ça. Tu fais référence au fait que les emplois alternés, enfin les
emplois. Bien dans le micro.
L'apprentissage.
L'apprentissage, on les connaît, j'en ai des emplois.
Ça a fonctionné.
Mais oui, parce qu'on paye. quand on paye, ça marche. Comme dans les emplois handicapés à l'époque, on payait cher, ça marchait, les gens y recrutaient. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut payer éternellement de façon délirante ? Tu as fait référence à un truc.
Mais moi, c'est pas nécessairement les mêmes dispositifs.
Mais c'est pas anti-macroniste que je dis, moi. C'est une politique de 40 ans de Gabji. Le troisième poste de l'État, il faut le rappeler tout le temps aux gens, comprenez que ce qu'on paye dans nos impôts, le troisième poste de l'État qui ponctionne toutes nos ressources.
C'est le service de la dette.
C'est le service de la dette. C'est l'intérêt de la dette, pour être précis. C'est-à-dire qu'il y a une dette abyssale et on paye l'intérêt, et rien que l'intérêt coûte un fric monumental. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne gèle pas cette dette, une bonne fois pour toutes, pour que ce troisième poste saute?
Mais
pour...
c'est pas possible.
Mais c'est possible.
On n'est pas, mais c'est.
Dans l'ultralibéralisme,
c'est. Attendez, vous répondez à Nabil Takache.
On est quand même dans un monde globalisé. Ouais. On ne dit pas à des gens. C'est comme si demain vous achetez. Alors demain vous achetez une maison et vous dites à votre banque, mais avec quelles conséquences? L'Argentine vit l'une de ses plus graves crises politiques et économiques. La présidente a échappé à une tentative d'assassinat.
Exact.
Donc ce n'est pas
l'Allemagne a bien vu sa dette effacée après la Seconde Guerre mondiale, je le rappelle. Ils ont effacé la dette totale de l'Allemagne.
Ça n'a rien à voir.
Il y a plein de pays comme ça.
Si tu veux, tu peux prendre la.
Demain, acheter une maison et vous allez voir
la Grèce, l'Italie,
les impacts malheureusement.
L'Italie.
Bien sûr, l'Italie.
Non, faut être sérieux. Il faut vraiment être sérieux. On peut pas. Le service.
Il est sérieux.
Le service de la dette, c'est en effet un des postes budgétaires les plus importants de l'État. Quand vous dites d'ailleurs que sur le 49.3, on fait passer des budgets, mais oui, mais parce que justement, on est obligé de faire passer des budgets en 49.3 parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir financer toutes les politiques publiques. Donc le service de la dette, on dit pas aux banques.
Dans le micro.
On n'est pas un pays.
Mais contre quoi? C'est ça qui est
très Henri Pémo.
Contre une perte de souveraineté, très souvent.
Si. Contre une perte de souveraineté.
Non. C'est contre. Avec des programmes de la Banque mondiale,
du FMI.
Comment vous vivez tout ça?
Qui sont maintenant sous souveraine.
Je crois que moi, je suis ravi.
Attendez.
Je suis ravi d'entendre que monsieur souhaite que la France passe sur des programmes d'ajustement.
C'est qui, monsieur Henri Pémo ou Gamal Abina?
Exactement. L'Afrique, elle a bénéficié.
Non. Il y a des rapports de force dans le monde. La France, qui est un pays riche, peut demander le gel, pas le non-remboursement, le gel de la dette et rembourser capital.
Voyez le débat. S'il vous plaît.
Je crois que la manière dont on débat là montre bien qu'il y a quelque chose à purger et qui n'a pas été fait dans la période précédente. Et une réforme comme celle-là, alors bien sûr que la France a aujourd'hui un âge de départ légal à la retraite qui est le plus bas de toute l'Europe.
Peut-être dans le monde.
Mais pour l'instant, je vais m'arrêter à l'Europe.
Jusqu'au jour où on est déclassé.
Et donc, oui, il y a sans doute des ajustements à faire. Mais enfin, mettez-vous à la place d'un jeune qui rentre sur le marché du travail aujourd'hui à 22, 23 ans. Il a 43 ans de cotisation pour avoir une retraite à taux plein. À taux plein. Donc ça l'amène, au minimum, s'il n'y a pas d'accident de parcours, 66. À 66, 67 ans. Ça, tout le monde le sait. Il peut aussi s'arrêter parce que il y a des capacités, par exemple, à racheter des trimestres. Il peut s'arrêter avant 62 ans. C'est l'âge légal de départ à la retraite avec une décote. Mais il y a des gens qui choisissent de façon tout à fait consciente de partir à 62 ans pour profiter de la vie avec une décote. 2 ans de plus, c'est-à-dire 8 trimestres de plus pour un certain nombre de gens, c'est aujourd'hui insupportable.
C'est la course mais les gens, les, et aujourd'hui, les
ça veut pas, dire c'est d'une pas. Décote pour un certain nombre de personnes, et ça veut dire des surcotes. Par exemple, moi, je suis parti à la retraite à 65 ans avec une carrière longue parce que j'ai commencé à travailler à 18 ans. J'ai eu une surcote. De 3 années, j'avais 45 ans. Très bien. Ça veut dire qu'avec cette réforme-là, par exemple, ma surcote est diminuée. Donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de débats techniques qu'il faut avoir, qui ne sont pas simplement des débats techniques, qui sont aussi des choix de vie. Et ce que je reproche, moi, c'est la marche forcée que Emmanuel Macron a voulu imposer dès le début de ce nouveau quinquennat.
Je lance la pause et on se retrouve tout de suite après pour continuer d'en parler surtout, et je voudrais qu'on avance sur les sujets qui nous attendent. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
Et 19h16, dernière ligne droite justement dans Les Informés, c'est chaud et ça débat justement, et il en faut, ça donne le ton comme disait Pierre-Henri. Pierre-Henri qui est avec nous, Les Informés c'est aussi avec Henri Pemo, c'est aussi avec Nabil Etakash et enfin avec Gamal Abina.
Les Informés, le face-à-face.
Un petit tour de table justement, à quoi peut-on s'attendre demain, chers amis, Pierre-Henri?
Ah ben, je pense une grande mobilisation et un arrêt quasi total dans, par exemple, dans les transports. Je regardais.
Ça peut faire plier Macron, ça?
Non, mais justement, je pense que Macron, le calcul, quand moi, j'entends le chef de l'État et la petite musique quand il parle d'irresponsabilité, quand il durcit le ton dès le début. C'est clairement qu'il souhaite aller dans un clivage. Et que, en l'occurrence, je ne suis pas sûr qu'il n'y aura pas des violences qui sont toujours regrettables demain. Et que tout cela va alimenter, évidemment, une polémique. Et que derrière, j'ai l'impression qu'on peut jouer l'affrontement, qu'on peut jouer le pourrissement. Et c'est pour ça que je parlais en début d'émission d'une possibilité de dissolution. Voilà, c'est peut-être ce qu'il y a. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi le chef de l'État, qui se présente comme rassembleur, d'un seul coup, est d'une dureté sans pareil, avec des mots très lourds.
Non, mais on fait un tour de table. J'ai compris. On fait un tour. Henri Pemo, justement, même question, pareil. Et en jeu.
Je pense que par rapport à demain, il y aura une mobilisation, forte mobilisation, je suis pas sûr.
On tape sur le million là?
Si on part dans des comparaisons, pour moi, si on n'est pas entre 1,5 et 2 millions, ce n'est pas une.
2 millions, comme en 95 là.
Exactement, c'est pour ça que je prends ce chiffre de référence.
C'est beaucoup 2 millions.
Voilà, si on n'a pas.
Pas le premier jour, hein.
Mais si on ne l'a pas.
C'est graduel, je suis d'accord.
Voilà, ça va être compliqué. Ensuite, est-ce que ça va faire plier le président Macron? Je ne pense pas. On le disait en début. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui comprennent que la réforme des retraites est nécessaire. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est cette réforme. Donc, c'est ce qui va faire aussi passer plus facilement les choses. En tout cas, pas celle que le président et le gouvernement présentent.
Maintenant,
je pense que c'est ce que sous-estime le président et son gouvernement. On l'a vu avec l'auditrice tout à l'heure. C'est que demain, l'affrontement n'est pas que sur la réforme des retraites.
Absolument.
Et c'est ce qui peut occasionner des violences qui sont beaucoup plus importantes.
Oui. Nabila Etakash.
Alors la mobilisation, oui, moi j'en doute pas, hein, elle sera là, forte, je ne sais pas, on verra ça. En effet, je pense que demain ça va cristalliser un certain nombre de mécontentements et des mécontentements qui sont liés, enfin qu'on explique très facilement avec ce qui se passe en ce moment, la guerre, le prix d'énergie qui augmente. Donc je pense qu'on va un peu tout mélanger. Et écoutez, la question, c'est pas faire plier Macron, c'est pas ça, c'est que c'est une réforme qui est nécessaire. Et nous, on fait le choix, encore une fois, je vous le dis, du travail. Et encore avec, en réparant toutes les injustices, bien évidemment, qui sont actuellement dans le système de retraite qu'on connaît.
Gamal Abina.
Alors, je ne sais pas si demain, ce sera une forte mobilisation. Il y aura une mobilisation, c'est sûr. On a rappelé que les syndicats ne représentent que 8% et qu'aujourd'hui, c'est plutôt les groupes, un peu des groupuscules qui s'organisent comme ça et qui s'agrègent sur Internet, comme on l'a vu dans d'autres pays. Je pense que, alors, la réforme nécessaire peut-être, urgente, pas vraiment, elle n'était pas urgente, on a encore un peu de temps devant nous. Et je pense qu'il aurait fallu d'abord régler d'autres problématiques plus graves que celle-ci. Il est vrai que M. Macron a été bien élu, c'est vrai de le rappeler, à 30% au premier tour, c'est quand même un score exceptionnel par rapport à la 5e.
Et avec 40% encore d'opinion favorable aujourd'hui.
Oui, mais j'ai pas fini.
Aujourd'hui.
On voit le clash là qui arrive.
Là, du tout. C'est que moi, je considère que c'est pas
je le vois arriver.
Élu avec même 40% d'opinion, ça reste une minorité, hein, malgré tout, qu'on doit passer en force. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que M. Macron a un problème de communication qui est évident, que ses ministres sont très médiocres, je le dis clairement et de façon ouverte, hein, je ne parle même pas de Le Maire qui est le pire de tous, et que malheureusement, il y a des moments où il a fait de bons choix, hein, on se rappelle de la période du Covid, et d'autres moments, il fait des grosses erreurs stratégiques. C'est-à-dire que cette réforme n'était pas ultra nécessaire quand on voit le niveau de tension d'aujourd'hui. Et on voit bien que les gens, ils n'appellent pas pour la retraite. 9 fois sur 10, c'est par le pouvoir d'achat.
C'est ça, exactement.
Et malheureusement, il n'y a jamais de bon moment pour une réforme de retraite.
Donc les syndicalistes ont réussi le tour de force d'amener à eux tout un tas de personnes qui n'ont rien à voir avec ces questions-là, mais qui vont venir renforcer les troupes pour donner un rapport de force de 95 qui n'arrivera pas, j'en suis persuadé. 95, c'était la rupture totale. Ça fait des années qu'on n'a pas vu ça.
Et rappelez-vous que d'ailleurs, à ce moment-là, on sortait aussi d'un contexte de crise. Hein. C'est toujours les mêmes. Il y avait quand même, début des années 90, il y a eu quand même aussi une crise économique. On avait le chômage qui était très élevé, très élevé. 93, c'est le début de l'explosion du chômage et du chômage de masse.
Ouais. On va parler, vous savez quoi ? Eh bien, d'un sujet que Pierre-Henri connaît très très bien. C'est les demandeurs d'asile. Vous connaissez ce sujet, Pierre-Henri?
Je pense, pour avoir été.
Alors justement, il y a plus de demandes d'asile après la crise sanitaire qu'on a connue. Et bien justement, les arrivées de demandeurs d'asile sont reparties à la hausse en 2022. On parle, vous savez quoi, j'ai un chiffre. 953 000 souhaitant obtenir donc l'asile, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à 2021. C'est dire à quel point vous voyez qu'il y a une reprise de cette migration. Donc j'ai une question à vous poser et je place la France. Hein. La France, c'est seconde. Hein. Seconde, me semble-t-il, vous m'arrêtez. Si évidemment ce ne sont pas les deux jours. C'est la France est la deuxième destination pour l'immigration irrégulière en Europe. Pierre-Henri.
Alors, d'abord, une petite précision sémantique. Lorsqu'on demande l'asile, très souvent, on est en situation irrégulière. Parce qu'on fuit une situation de guerre. Votre État ne peut plus vous protéger. Donc, on est forcément en...
Sauf que là, ça continue d'augmenter.
Oui, alors...
On veut vous tuer aussi.
Oui, bien sûr. Alors,
surtout qu'on connaît les débats qui arrivent au sein de l'hémicycle.
Pour la
Darmanin,
France.
Je fais référence au ministre
pour
de l'Intérieur.
Pour la France, nous sommes revenus au niveau d'avant Covid. C'est-à-dire 134 000 demandes d'asile, dont près de 30 000 qui sont des demandes anciennes. Je ne vais pas rentrer dans les détails.
Non. Soyons pas trop techniques.
Alors, Afghanistan, première demande, Afghanistan, 17 000 personnes. Deuxième demande, Bangladesh. Troisième demande, Turquie. C'est notamment les Kurdes, 8 000. Et simplement... je voudrais comparer avec l'Allemagne.
Oui. Mais pourquoi ailleurs ça baisse et pas en France et en Espagne? C'est ça que je veux comprendre.
L'Allemagne.
C'est ça que je veux comprendre.
L'Allemagne.
Et pas l'Allemagne.
Eh ben, l'Allemagne, pendant la même période, c'est 240 000 demandes d'asile, auxquelles il faut ajouter 1 million d'Ukrainiens. Exactement. 1 million d'Ukrainiens.
Oui, c'est vrai, 1 million.
Voilà.
Mais sauf que vous ne nous dites pas. Oui. Vous avez en face de vous un journaliste. Hein. Oui. Vous ne pouvez pas nous la faire à l'envers, Pierre.
Oui.
1 million qui entre. Et de l'autre côté, c'est 1,5 million qui sortent.
1,5 million qui sortent.
Oui, d'où? Ah si, d'Allemagne, bien sûr. Oui. C'est la raison pour laquelle l'Allemagne avait besoin aussi de. Je vous le dis.
Non. Sur un an, ce serait beaucoup.
Non.
Ce serait très inquiétant.
Oui, sur deux ans, trois ans, oui. Un an, trois ans ou cinq ans.
Vous avez raison. Quand on parle de migration, très souvent, on parle des flux entrants. On ne parle jamais des personnes qui repartent.
Ah oui, je vous le dis.
Mais
donc ça crée l'équilibre. On en a besoin. Oui. L'Allemagne en avait besoin.
Tout à fait, parce que
il est clair que dans le monde,
Le cas de la France.
Il est clair que le monde ne va pas bien. Hein, qu'il y a un certain nombre d'endroits où il y a des guerres qui durent. Je vais parler de la Syrie, je vais parler de l'Afghanistan. Que l'Afghanistan se vide aujourd'hui. Je peux parler de l'Iran. Alors l'Iran, où vont-ils les Iraniens? Ils vont en Allemagne.
Ouais.
Ils demandent l'Allemagne.
Moi, ce que je veux comprendre, parce que vous êtes le spécialiste justement sur cette question-là, parce que vous avez été le président de France Terre d'Asile.
Oui.
Pourquoi il y a eu un durcissement sous Trump et pourquoi là, ça, en Espagne ou en France par exemple, on se retrouve avec ce flux évidemment.
C'est des demandes, ça ne veut pas dire qu'elles vont être acceptées.
Oui.
C'est des demandes.
Oui, mais partout ailleurs, on n'a pas cette justement.
Non, ne dites pas ça. C'est les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, c'est les chiffres globaux d'entrée dans l'Union européenne. Et donc, ça se répartit vers les principaux pays d'accueil. Les principaux pays d'accueil, ils n'ont pas changé. Hein. C'est la France, c'est l'Allemagne.
Moins 36 000 en Allemagne. En France, c'est plus 20 000.
J'ai été absorbé.
Non.
Mais j'avance pas les chiffres.
De 140 000. Avant de venir, je travaille toujours mes émissions et donc je suis allé voir sur.
Et je peux pas vous contredire. Vous êtes spécialiste sur cette
question. L'intérieur allemand pour 2022, 240 000 demandes d'asile et donc ça ne diminue pas. Et les demandes, elles viennent d'Afghanistan, de Syrie et de Turquie.
J'ai sous les yeux un chiffre. Moi, le reclus du nombre global de demandes dans les pays, donc de l'OCDE, moins 175 000 en grande partie lié donc à trois pays de destination, les États-Unis, l'Italie, moins 73 000 et l'Allemagne moins 136 000.
Oui, alors,
et à côté de ça, vous avez l'Espagne plus 22 000 et la France plus 20 000, plus 19 000.
Et l'Allemagne, en plus, a pris une loi au début du mois de décembre, le 2 décembre, qui permet de régulariser un certain nombre de personnes qui sont en situation irrégulière.
Alors faisons un tour de table.
Y a énormément,
en tout cas, merci pour votre éclairage.
Pour prendre la situation d'Allemagne, il y a énormément de personnes en situation irrégulière qui sont arrivées et qui ont été régularisées parce qu'il y a une politique d'assouplissement depuis plusieurs mois.
Absolument.
Et qui va encore être considéré par les Allemands parce que pénurie de main d'œuvre. Donc en Allemagne, c'est vrai que c'est complètement différent par rapport à la situation française.
Mais la France va connaître la même chose. On a besoin de main d'œuvre.
Non, la France, la difficulté, c'est qu'on a un stock.
Si, la restauration, l'hôtellerie, tout ça.
On a un stock, on a un stock de dossiers.
Il faut commencer d'abord par régulariser ces gens-là.
À traiter déjà.
Ah oui.
C'est pas une question de régularisation, là, c'est une question de traitement.
Traitement.
Ah bah c'est une question de régularisation aussi, parce que je vous rappelle.
Qui veut aller bosser dans les restaurants, à part les immigrés.
Attendez.
Mais c'est vrai, ceux qui arrivent justement cette main. Vous êtes marrant.
Selon Gérald Darmanin, il y a 700 000 personnes en situation irrégulière sur le sol français.
Oui.
Et donc, et un certain nombre d'entre eux travaillent dans les métiers en tension.
Exactement. Et vous êtes bien content parce que la France, elle peut dire merci à ces gens-là.
Bien sûr.
À titre indicatif, une chose essentielle, parce qu'on parle beaucoup de gens qui fuient, ce sont des réfugiés de guerre ou économiques, qui fuient des pays qui sont des catastrophes. Je rappelle tout de même que la majorité de ces réfugiés sont dans les pays pauvres. Je veux dire, le Liban, c'est pratiquement 2 millions de personnes.
Vous avez tout à fait raison.
La Turquie, c'est 3 millions de personnes. L'Iran, c'est pareil. C'est les chiffres faramineux qui sont là-bas. Donc ici, c'est
que Pierre-Henri vous dise que vous avez raison. Là, c'est.
Je connais la question. Et pas
non, mais c'est vrai.
Il est bon.
Tout à fait raison.
Non, mais c'est vrai. Mais,
bien sûr, les flux que nous recevons en Europe sont tout à fait minoritaires par rapport aux flux qui se déplacent, par exemple, à l'intérieur du continent africain.
Les premiers lieux d'accueil,
se situent en Afrique. Exactement. Le Kenya, par exemple. Ben, tout simplement parce que regardez la corne de l'Afrique, regardez les conflits qu'il y a.
Dans quelques mois, on va être confronté à quoi? Vous avez parlé de Gérald Darmanin.
Eh bien,
à une loi. À une loi sur quoi? Rappelez-le-nous, s'il vous plaît.
Sur le projet immigration asile.
Et merci. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner raison au Front au Rassemblement National. Tout ça.
C'est pas l'objectif.
Mais si, ça va alimenter encore, évidemment. Vous le savez.
Qu'est-ce qu'avait été dit? Adil, que ce projet de loi verra le jour en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure. S'il y a dissolution, question,
on est quand même beaucoup dans la spéculation. Hein. On est dans la spéculation de.
Nabil
on pourra toujours financer nos retraites, ça c'est pas grave.
Non, c'est pas ce qu'on dit.
Nabil. Non mais Nabil Aitakash là.
Je le respectais jusqu'à maintenant.
Qu'est-ce qui vous est arrivé là? Vous avez craqué ou quoi? Vous avez entendu,
il
est où là du
réalisateur? Sur les trois personnes en question qui sont autour de la table, j'en connais au moins deux qui ont voté pour Emmanuel Macron. Alors vous devriez vous inquiéter de ce qui se passe à l'intérieur même de l'électorat de Emmanuel Macron.
Exactement. Et il a raison.
J'ai voté pour Macron.
C'est vrai. Et Gamal Abina. Et effectivement, il a raison.
J'ai mis Adil à part, hein, parce qu'il est journaliste.
Je suis journaliste, moi je ne dirai rien. Absolument.
Et moi je suis le petit nouveau, donc.
Oui, Robert.
Il est incroyable, il est incroyable. Ouais. Merci monsieur, il est 19h30 déjà. Merci à Pierre-Henri.
Merci Adil et c'était au plaisir sur Beurre FM, comme toujours.
Rappelez-nous votre programme.
Le samedi et le dimanche. Alors bien sûr,
profitez de la forte audience là.
C'est 8h20, mais un pays en débat.
Vous avez beaucoup de monde à 8h20.
Oui, mais bien sûr.
Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'avais ma rediff qui était à ce créneau-là. Et j'avais énormément de retours le samedi et le dimanche à 8h.
Oui, mais j'en ai et ils sont plutôt bons.
Ouais.
Voilà. Merci à Beurre FM et aux auditrices et aux auditeurs.
Merci à Henri Pémon, élu de la Seine-Saint-Denis, de la Lille-Saint-Denis.
Exactement. Merci à Gilles.
On avait reçu le maire ici en plus.
Et j'espère que c'est la première d'une longue série.
Ouais, s'il nous écoute le maire, il va vouloir venir. Hein. Oh. Vous êtes son opposant là.
Eh ben, j'espère qu'on aura l'occasion de débattre.
Nabil Aitakash, le représentant du 9-3.
Merci
de Renaissance.
Pas toujours facile, mais merci.
Non, mais c'est. Moi, je trouve. On peut, vous savez quoi? Non, franchement. 3 contre 1, on peut l'applaudir.
Chapeau.
Parce que moi, je trouve qu'il s'est bien défendu. La vérité, vous êtes bien défendu.
Merci.
Seul face à tous, hein, quand même.
Oui, mais enfin.
Il est bon, c'est là où on voit, il est bon. Il est talentueux, hein, le jeune. Hein.
La dissolution le guette et peut-être sera-t-il comme
il ne veut pas le reconnaître. Merci à Gamal Abina.
Merci, au plaisir.
À la réalisation, c'était Anthony. Bilal Nenman, ne manquait pas ce rendez-vous à Bata parce que ça va parler football. Direction Riyad en Arabie Saoudite où justement demain le choc, le match attendu, Messi face justement à Ronaldo. Si demain soir à Riyad. Vanessa à 21h, quant à moi, à demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.